Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Moustaki, c'est mon frère.
Bonjour. Bonjour Gonzalo.
Comment te portes-tu ?
Très bien.
Merci de revenir une nouvelle fois.
Ah, c'était un plaisir.
C'est un siffleur mexicain. De qui, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ?
Je vais te lire une nouvelle de Roberto Arlt, qui porte le nom L'éleveur de gorilles, et c'est tiré d'un livre qui s'appelle L'éleveur de gorilles.
Qui est ce monsieur ?
C'est un écrivain qui a publié pas mal de romans. Là, c'est une nouvelle tirée d'un recueil de nouvelles. Il a publié Les Sept Fous, La Danse du Feu, Un Terrible Voyage. Le Jouet Enragé, apparemment, c'est son livre le plus réussi. Je n'ai rien lu de lui. En fait, c'est pour rentrer dans cet auteur que j'ai commencé par ce petit recueil et je découvre en fait.
Oh, I just come from the land of the sun, from a war that must be won in the name of truth, with our soldiers so brave.
Logra publicar su primer cuento y dos años más tarde edita el ensayo Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires, que firma como Carlos Godofredo Arlt. Meses después, el servicio militar obligatorio lo lleva a Córdoba, donde pasará 4 años. Allí se casa con Carmen Anticucci, con quien tiene a su hija Mirta. La nueva familia se traslada a Buenos Aires en 1924. Pronto se convierte en una suerte de secretario de Ricardo Güiraldes, un refinado intelectual y estanciero que establece con él una relación casi paternal, que será de vital importancia en la carrera de Arlt. Güiraldes le gestiona algunas publicaciones en la revista Proa, lo vincula con los círculos literarios de la ciudad e incluso le cambia el nombre a su primera novela. La vida puerca pasa a llamarse El juguete rabioso. En 1925, con su primera novela terminada, Arlt comenzará la difícil búsqueda de una editorial. Al mismo tiempo, empieza a publicar quincenalmente en la revista Don Goyo. Es su primer trabajo rentado vinculado a la escritura.
L'éleveur de gorilles. Tous ceux qui me connaissaient avaient eu un haussement d'épaules compatissant en apprenant que j'allais travailler à l'élevage de gorilles de Farjala Bill Ali. Je n'avais pas d'autre choix, on m'avait mis à la porte des commerces les plus importants de Stanley. Dans certains, on me traitait de voleur, dans d'autres d'ivrogne. À l'entrée du marché, je tombais par hasard sur mon dernier patron qui, commentant ironiquement ma décision, me dit « Tu ne réussiras pas à redresser la queue d'un lévrier, même si tu la laisses 20 ans dans le canon d'un fusil. » Devant le pessimisme qui perçait dans le proverbe arabe, je haussais les épaules. Que pouvais-je faire ? En Afrique, ce n'est pas seulement dans le désert que l'on meurt de faim, mais aussi dans la jungle la plus épaisse et la plus bruyante. Là où verdoient les manguiers, où rient les chimpanzés, la flèche vénéneuse est presque toujours à l'affût. Chez Farjala Bill Ali, j'allais travailler comme comptable. Cette canaille de Farjala n'exploitait pas seulement un florissant élevage de gorilles, mais aussi un centre de dressage où l'on apprenait à travailler à de jeunes éléphantaux. Le marchand tirait un bénéfice substantiel des éléphants domestiqués et des gorilles qu'il vendait. Il possédait plusieurs arpents de jungle et des cohortes d'esclaves. Comme ces derniers étaient beaucoup trop maladroits pour qu'on pût leur confier l'éducation des éléphants, on les destinait aux travaux pénibles. En général, les noirs étaient employés comme nourrices des gorilles orphelins. En effet, les singes adultes mouraient de tristesse lorsqu'ils se voyaient privés de liberté. Il fallait une attention toute particulière pour nourrir les bébés gorilles orphelins, car leur odorat très développé leur permettait de faire la différence entre leur mère et les noirs. Ces petites bêtes étant par ailleurs terriblement jalouses, elles ne tolèrent pas qu'une esclave donne le sein à son propre enfant. Comme Farjala Bill Ali ne se montrait pas très regardant à ce sujet, une noire du nom de Tula, qui vivait là avec son rejeton, surpris, totalement impuissante, le gorille dont elle s'occupait en train d'étrangler l'enfant. Ce fut là l'origine d'un drame. Le père du bambin, un noir qui travaillait à l'embarcadère, apprenant que son fils avait péri entre les griffes d'un gorille, se précipita à l'élevage, attrapa l'animal par une patte et lui coupa la tête. Fier de son exploit, il s'en retourna au port, la tête du gorille à la main. Farjala Bill Ali, rapidement infortuné du préjudice subi, courut à l'embarcadère. La tête du singe posée sur une pile de balles de coton était visible de loin. Selon un témoin, Farjala apparut comme la colère du prophète. Sans dire un mot, il dégaina son énorme pistolet et vida tout le chargeur dans la tête du mari de Tula. En ma qualité de contremaître, responsable du déchargement chez un autre commerçant, je fus témoin du meurtre. Le noir fut pratiquement décapité. À l'issue du procès, Farjala fut acquitté. De faux témoins déclarèrent que l'arabe avait dû se défendre contre l'agression du noir. J'étais l'un de ces témoins iniques. Mon patron, qui s'intéressait alors à l'achat de défense d'éléphants et avait investi son capital dans le négoce de Farjala, m'obligea à déclarer que le noir, armé d'un énorme couteau, avait agressé l'arabe. Au cours du procès, la tête du gorille décapité fut présentée comme une importante pièce à conviction. Inutile de préciser que pendant toute la durée de l'instruction, Farjala Bill Ali ne fut pas emprisonné un seul jour. Il est temps maintenant de présenter le personnage principal de cette histoire. Farjala Bill Ali était une fripouille née. Il ne pouvait nier ses antécédents. Le grand-père de sa mère avait été pendu au mât d'une frégate pour trafic d'esclaves. Le père de Farjala avait été assassiné par un marchand. La mère de Farjala s'était longtemps consacrée à la traite de l'ébène vivant. Lors d'une sieste, un éléphant furieux l'avait tué à coups de défense. Farjala avait repris le flambeau. C'était un grand Congolais, maigre, au nez crochu. De confession musulmane, il se coiffait d'un turban en mousseline jaune. Jamais personne ne l'avait vu sans son fouet. Il s'en servait aussi bien contre les blancs que contre les noirs. Il est vrai que lorsqu'un blanc travaillait pour Farjala, c'est qu'il avait atteint le dernier degré de la déchéance. Le comptoir était en effet l'antichambre de la prison.
Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven. folks employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joys, repeat the sounding joys, repeat, repeat the sounding joys.
Barjala connaissait mes antécédents. Quand je m'étais présenté à lui en quête de travail, il avait ordonné qu'on me donne une bouteille de whisky et m'avait expédié sur ces mots « File et sous le toit, on discutera après ». Je ne dessoulais pas de 3 jours. Le 4e, je fus réveillé par une pluie de coups de pied dans les côtes. Debout près de moi, glacial et sévère, se tenait le trafiquant. Je me levais tout endolori tandis que ce scélérat me demandait « Tu vas dormir jusqu'au jour du jugement dernier ? Viens avec moi à l'entrepôt, il est temps de gagner ton pain ». Ce furent là mes débuts chez lui, mais nos relations ne pouvaient être cordiales. Un jour que nous naviguions sur le fleuve près des rapides Stanley, pour aller chercher un chargement d'ivoire après avoir récupéré la marchandise, et au moment où les chasseurs Wawa, sur leur pirogue, exécutaient autour de nous un simulacre de danse nautique, Farjala voulut s'emparer de force d'une esclave que j'avais acquise en échange d'un pistolet automatique. Farjala allégua que, tant que je travaillais sous ses ordres, je ne pouvais acquérir de marchandises d'aucune sorte. Il prétendait que si les chasseurs m'avaient vendu l'esclave, c'était en raison de son prestige à lui. Évidemment, le noir était de mauvaise foi. J'étais un blanc et rien ne pouvait s'opposer à ce que j'achète l'esclave noir. Farjala, irrité, me répondit alors qu'il ne tolérait jamais que la noire vive dans son établissement. À quoi je rétorquai que je n'avais jamais songé à emmener mon esclave dans ce repère de voleurs. Lorsque j'eus prononcé ces derniers mots, l'irritation de Farjala fut à son comble. Il se pencha vers moi et avant que je puisse deviner ses intentions, il me cracha au visage. Dieu de tous les saints, prêt à lui briser les os, je me jetais sur lui, mais Farjala m'envoya un coup de pied dans l'estomac que je m'affalais, un tel coup de pied que je m'affalais, évanoui au fond de la barque. Lorsque je fus remis des effets du coup de pied, de l'eau de vie de banane et de la fatigue, je me rendis compte que mon esclave avait disparu. Rossé et humilié, je me retrouvais de plus au chômage. Les Noirs me regardaient ironiquement. Je compris que j'étais perdu si je ne me réconciliais pas avec Farjala Bilali. Ravalant ma haine, le sourire aux lèvres et la mort dans l'âme, je retournai au comptoir. L'arabe était en train de pérorer au milieu de ses bêtes de somme. C'est à peine s'il daigna répondre à mon salut. J'entrai dans le bureau du magasin comme si rien ne s'était passé. À partir de ce jour, mes relations avec le commerçant furent exécrables. Il me traitait comme un esclave méprisable. Pour moi, c'était un homme que ma vengeance ferait un jour grincer des dents. Mais il est écrit que les chemins de la perversité ne mènent pas loin.
Writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. I was a fool to fall and get that way. Hi ho, alas, and also lack the day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me.
Quelques jours après les événements que je viens de relater, un gorille adulte que nous devions remettre au jardin zoologique de Melbourne mourut. Farjallah, qui par négligence avait différé l'envoi, n'arrêtait pas de pester. À la place du gorille, il décida d'expédier une chimpanzée dont s'occupait Tula, la femme du noir qu'il avait abattue. Tula avait pris le petit singe en affection. Le chimpanzé la suivait comme un petit garçon espiègle. Quand la veuve apprit que le singe allait être confié à une ménagerie, elle fondit en larmes. Il fallait la voir prendre le chimpanzé, lui caresser le poil et le serrer contre elle en pleurant, tandis que le singe regardait autour de lui d'un air contrit, en caressant de ses longs doigts roses et velus, les joues humides de sa mère adoptive. Mais même les larmes d'un million de noirs n'auraient pu attendrir Farjallah Bilali. Nous partirions le lendemain pour la ville de Stanley. Dans le même camion, nous devions transporter le cadavre du gorille, le chimpanzé vivant et l'esclave. Une fois arrivés, nous devions expédier le chimpanzé à Sydney. Quant au cadavre du gorille, nous l'abandonnerions avec l'esclave noir. Sur la route de Stanley, à un peu moins de 2 lieues du comptoir, il y avait une portion de jungle ravagée par les termites ou fourmis blanches. Là, dans la clairière terreuse brûlée par le soleil, s'élevaient des espèces de menhirs de boue de 5 à 6 mètres de haut. Ces monuments creux étaient des nids de termites. Quand l'un de ces animaux exotiques mourait, Farjallah avait l'habitude de vendre son squelette. À Stanley vivait un homme qui achetait les squelettes de gorilles pour les expédier à Londres. Ils étaient probablement destinés à des établissements scolaires. Afin d'éviter le processus naturel de décomposition, il portait le cadavre jusqu'à la termitière, comme cela se pratiquait dans le pays, et à l'aide d'une masse, ouvrait une brèche dans le nid. Des fils compacts de termites recouvraient immédiatement la charogne abandonnée dans le trou. En quelques heures, le squelette était parfaitement nettoyé. Je m'empresse d'ajouter qu'il y a peu de temps encore, les trafiquants d'esclaves punissaient les noirs et plus récalcitrants en les enduisant de miel et en les attachant à l'une des termitières.
He's uptight, he don't know nothing new. Well, he ain't cheap, he just can't afford to. But she don't mind, he's her everything. Anything for you. Every day trying to get by. No time to cry. No, he can't afford to. And she waits through everything. Anything for you.
Nous chargeâmes le gorille mort dans le vieux camion du marchand, puis la noire et le chimpanzé. Moi, j'étais assis à côté de l'arabe qui était au volant. Je me dois de préciser que nous étions les seuls à être restés au comptoir. Tous les autres s'étaient concentrés au nord pour chasser un couple de lions qui, la veille, avaient dévoré un bœuf. Les hommes, armés de longues lances pour la chasse aux éléphants, suivis de leurs femmes et de leurs enfants, s'étaient enfoncés dans la forêt. Nous partîmes pour Stanley sous le soleil. Des nuées de papillons multicolores s'éparpillaient sur le chemin. Malgré la vitesse du camion, nous nous sentions épiés par tous les yeux de la forêt. Brusquement, Farjallah, sans cesser de regarder devant lui, m'annonça « Cherche-toi un autre patron, je n'ai plus besoin de toi. »« Très bien, » répondis-je. Derrière nous, on entendait les pleurs de la noire enlacée à son chimpanzé. C'était des sanglots étouffés. Un espace entre deux planches permettait d'apercevoir la femme qui étreignait tendrement l'animal, et le singe, l'air penaud, qui regardait autour de lui avec une tristesse infinie dans ses yeux brillants. La noire caressait la tête du chimpanzé qui scrutait le visage de sa mère adoptive avec une vivacité perplexe. Il ne savait pas vraiment de quel danger il devait la protéger. « Ferme-la, maugréa le marchand. en s'adressant à l'esclave sans la regarder, car lorsqu'il conduisait, il s'accordait une attention toute particulière à cette opération. Essayant de me montrer soumis, je lui dis « Je regrette de ne pas avoir su te servir. » L'arabe se borna à me répondre « Tu n'es même pas bon à ravauder les babouches d'un vagabond. »
That's what you call true love, true love, true love, true love. That's what you call true love, true love, true love, true love. To know, do you want me? She'd love to know, do you love me? He'd love to know, do you love me? She needs to know, do you need me? He needs to know. It's what you call true love, true love, true love, true love. It's what you call true love, true love, true love, true love.
Le chimpanzé dans ses bras, la noire fondait à nouveau en larmes. Soudain, nous sortîmes de l'ombre verte. Au-dessus de nous apparut le ciel. Dans une clairière brûlée par le soleil, les termites avaient érigé leurs rocs rugueux et marrons. Au sommet de certains de ces nids géants poussaient des touffes d'herbe. Un camion s'arrêta dans un bruit de grincement métallique. Je pris la masse et me dirigeai vers la fourmilière, une fourmilière trois fois plus grande que moi. On aurait dit un tronc usé par la tempête. La noire chargea le sac contenant le cadavre du gorille sur ses épaules et, accablé, se dirigea péniblement vers les termitières. Le petit chimpanzé aux jambes arquées la suivait en nous regardant avec rancœur. Je levai la masse et la battis à la masse de la fourmilière. Le béton du nid refusa de céder. Farjala s'approcha, je levai la masse et, avant qu'il ne pût l'éviter, je lui balançai un vigoureux coup de pied dans l'estomac. Un coup de pied identique à celui qu'il m'avait envoyé dans la barque le jour de la fête noire. Au rapide Stanley, Farjala tomba, je dis à l'esclave, amène le gorille. La femme laissa tomber pesamment la bête morte près du trafiquant d'esclaves. Sans perdre de temps, je lui ôtai son turban et à l'aide d'un long ruban de mousseline, lui attachai les pieds et les mains. Ensuite, j'assénai un autre coup de masse sur la termitière. Finalement, un morceau d'écorce s'affaissa, dévoilant l'intérieur plutonien, sillonné de canaux noirs par lesquels défilait une humanité blanchâtre de fourmis grises. « Aide-moi » criai-je à la noire. L'esclave comprit. Nous soulevâmes le cadavre du gorille, attaché au trafiquant, et traînâmes les deux corps vers la fourmilière. La femme poussa quelques cris gutturaux. Le petit chimpanzé courut vers elle et attrapant sa main, il s'agrippa à sa hanche. Elle, riant, les lèvres légèrement ouvertes, demeura là à contempler la brèche grouillante de la termitière. Des milliers de fourmis enragées recouvraient les deux formes d'un linceul gris. La djellaba de Farjala et la dépouille velue du gorille fut revêtue d'une écorce mouvante et cendrée qui s'ajustait constamment aux croissantes irrégularités de ses corps. La noire et son fils adoptif contemplaient cette fin. Je pris la bouteille de whisky qui était restée sous le siège du camion Il vaut mieux que tu t'en ailles et que tu ne reviennes jamais, dis-je à l'esclave. La femme attrapa prestement le singe par la main et se dirigea vers la forêt. Je les vis pour la dernière fois alors qu'ils franchissaient l'orée de la muraille végétale. Le petit chimpanzé, tenu par la main, se retournait vers moi comme un gamin dépité. J'attendais, caché maintenant derrière des cactus, le moment d'enfourcher le cheval que j'avais dissimulé la veille. Tula écarta quelques branches et s'enfonça dans l'épaisseur verte. Je montai sur mon cheval et m'en retournai au comptoir pour me forger un alibi, tandis que Farjala Bilali restait là, en plein soleil, les fourmis le dévoraient tout cru. Rude, ce mélange de meurtre prémédité, de violence, d'esclavage.
De rapport de caste.
De rapport de caste, ouais. C'est je lis pas beaucoup de romans, mais là ça m'a réconcilié avec le genre. J'avoue que le style et le ton de cette petite nouvelle m'a donné envie d'aller plus loin et d'explorer un peu Roberto Arlt.
Merci.
Merci à toi.
À très bientôt.
Poète, chanteur, Moustaki, c'est mon frère.